Tchatch, le ravi, Radio Grenouille.
Bonjour à toutes et à tous, excellente année 2007 au nom de toute l'équipe du Ravi. Le Ravi, comme tous les mois sur les 3-8 La Grenouille, tous les premiers vendredis du mois dans les kiosques et sur internet www.leravi.org. La politique est à l'honneur, la politique est à demeure sur Radio Grenouille avec toute l'équipe du Ravi, avec comme invité aujourd'hui Jacques Rocasserra de l'UDF. Jacques Rocasserra, bonjour.
Bonjour.
Alors, avant de commencer cette émission, on parlera bien entendu du national, des législatives, mais également des municipales à Marseille. Michel Guéraud, qui présente l'émission avec moi, et Jean-François Pouplein, va tirer votre portrait en quelque sorte.
Un vrai portrait ou un portrait de jeune journaliste?
On écoute.
Bonjour. Que tous ceux que désole la disparition de James Brown se réjouissent, car nous recevons aujourd'hui une véritable sex-machine. L'homme qui préside l'UDF dans les Bouches-du-Rhône, Jacques Rocasserra. Vos confidences torrides au magazine Actuel sont restées dans les mémoires. Vous aviez déclaré « Je ne bois pas, je ne fume pas, je ne joue jamais, mais j'ai une passion, les femmes. J'ai été un très 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 grand coureur. » Un tempérament latin qu'explique peut-être vos origines. Vous êtes né à Casablanca il y a 64 ans. Surtout, vous avez grandi dans le village corse de Serra di Scopamena, 150 habitants et quelques milliers de châtaignes. Kiné de profession, président des 34 ans de la Jeune Chambre économique de Marseille, vous entrez en politique comme représentant de la société civile. En 1977, vous devenez conseiller municipal sous le règne de Defer, le patriarche socialiste. Réélu en 1983, toujours sans étiquette, Gaston vous nomme adjoint au patrimoine, au commerce et à l'artisanat. Jacques, vous aimez beaucoup les femmes, mais presque autant les mandats. Les années passent, les majorités valsent, les maires se succèdent et vous restez toujours en place. Robert Vigouroux, en rupture avec le PS, vous nomme adjoint à l'architecture. Lorsque Jean-Claude Gaudin, alors UDF, s'empare de son fauteuil, il garde les meubles et vous nomme adjoint au transport. En 2001, bis repetita, il vous confie à nouveau une délégation qui inclut la régie des transports et les relations internationales. Entre-temps, vous avez passé 9 années au Sénat. Le site de la Haute Assemblée conserve la trace de chacune de vos interventions, comme ce 9 juillet, où vous plaidez pour une grande cause, l'installation de toilettes dans les grandes surfaces. Là n'est pas l'essentiel. Pour la première fois, vous adhérez en 1996 à un parti politique, l'UDF, déjà dirigé par François Bayrou, alors un jeune conformiste et sans doute formiste était-il de trop. Vous présidez aussitôt la Fédération du Parti centriste des Bouches-du-Rhône. Vous siégez depuis au Conseil politique national de l'UDF. Vous avez connu des revers en ne parvenant pas à vous faire réélire sénateur, par exemple, mais aussi des succès en étant reconduit conseiller régional en 2004. L'année qui s'ouvre risque de mettre vos nerfs à l'épreuve. Il va falloir rester fidèle à Jean-Claude Gaudin, le numéro 2 d'une UMP contre laquelle François Bayrou appelle les Français à l'insurrection. Allez, get up, stay on the scene.
Bon, Monsieur Rocasserra, une première question. On a vu un François Bayrou, on garde une image d'un François Bayrou avec cette petite claque, un jeune dans les cités en 2002. On a un président de l'UDF national qui est très véhément contre la majorité. Qu'est-ce que l'UDF aujourd'hui? Comment se situe ce parti?
D'abord, je voudrais vous remercier de m'avoir invité. Ensuite, souhaiter à tous vos toutes les personnes qui vous écoutent mais qui vous lisent aussi une très bonne année, surtout une bonne santé, et dire que je suis assez satisfait de ce portrait assez satirique mais proche de la réalité. Donc, je vous en remercie aussi. La question, c'était, pardon.
Qu'est-ce que l'UDF aujourd'hui hein?
Oh, l'UDF, c'est quelque chose de très important parce que si elle n'existait pas, on s'en apercevrait. L'UDF, c'est aujourd'hui le seul parti qui représente vraiment les Français, même si au niveau des intentions de vote, ce n'est pas encore satisfaisant, parce que c'est le seul parti où les élus peuvent dire et faire ce qu'ils veulent. La démocratie en France aujourd'hui est un peu travestie. Parce qu'on est l'élu d'un parti politique, mais pas de la population. Ça veut dire que lorsque vous êtes au Sénat ou à l'Assemblée nationale, vous représentez plus ceux qui vous ont élus. Vous représentez les caporaux de vos partis politiques. On ne vous demande pas votre avis, vous ne demandez pas de l'avis de ceux que vous représentez. On vous dicte ce qu'il faut que vous disiez, ce qu'il faut que vous fassiez, ce qu'il faut que vous votiez. Les Français doivent comprendre que c'est fini. Ils doivent être représentés par des gens qui les représentent et qui défendent leurs intérêts. Voilà ce que c'est l'UDF. L'UDF, c'est un parti qui dit oui au gouvernement quand il pense que c'est bien, non au gouvernement quand il pense que c'est non, y compris dans la motion de censure, puisque cette affaire Clestream a été un scandale politico-financier.
Et c'est un petit peu, Monsieur Rocasserra, excusez-moi de vous couper, mais là, vous me dites que l'UDF représente les Français. C'est un vœu pieux d'à peu près tous les candidats. On a Nicolas Sarkozy qui dit tout haut ce que les gens pensent tout bas, que Ségolène Royal est en train, d'elle, d'écouter les Français. Elle va construire un programme à travers ça. Donc, il n'y a pas grand-chose de nouveau. Vous situez comment ?
Non, mais justement, je me suis mal exprimé. Moi, j'ai été parlementaire pendant 9 ans. Ben, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Vous ne pouvez pas voter en fonction des intérêts que vous représentez. On vous dit, cette loi, il faut voter pour, que vous soyez d'accord ou pas d'accord, et vous n'avez même pas le droit de mettre des amendements.
Mais Jacques Rocasserra, ça c'est la discipline du parti. Vous qui dirigez une fédération, celle des Bouches du Rhône, vous savez bien comment il faut imposer une certaine discipline. D'ailleurs, l'UDF est né...
Mais je pense que ce système n'est pas bon. S'il y a une discipline du parti, que les gens respectent, autrement on ne les réélit pas, mais je crois qu'il faut un peu plus d'indépendance. Autrement, ça sert à quoi ?
Alors, il y a quand même un pari, là, c'est-à-dire que vous dites l'UDF est un parti important, mais quand même très écrasé par rapport à son grand frère, l'UMP. Vous êtes conseiller régional dans un groupe dirigé par l'UMP. Vous êtes adjoint à la mairie de Marseille, dirigé par un maire UMP. Partout, l'UMP est présente et vous cerne et quand même vous cornaque.
Non. Premièrement, c'est vrai qu'on est écrasé entre les deux groupes, c'est-à-dire le groupe de gauche dominé par les socialistes et le groupe de droite dominé par l'UMP aujourd'hui et précédemment par le RPR. Mais tout ça, c'est à cause des règles qui sont en place. C'est à cause des législatives qui sont à deux tours et qui ne peuvent pas avoir de proportionnel. Donc vous avez ou un type de droite ou un type de gauche. Et c'est pour ça, à mon avis, que la France souffre, non pas que je sois pour la proportionnelle parce qu'elle empêche d'avoir une majorité. Moi, je crois que dans un pays, il faut une majorité, donc dégager une proportionnelle. Mais elle empêche aussi la représentation de groupes comme le nôtre à une meilleure proportion, y compris des groupes d'extrême droite et d'extrême gauche que je préférerais voir, moi, au Parlement et non pas dans la rue ou dans l'ombre.
Mais vous êtes en train de vous nous disiez que les élus de votre formation devaient avoir une certaine liberté, si j'ai bien compris. Mais est-ce qu'ils doivent pas non plus être porteurs d'un projet ? Et quel est ce projet ?
On est porteur d'un projet parce que là, on est sur le plan national. Vous m'avez donné deux exemples pour lesquels je répondrai. Par exemple, au Conseil régional, l'UDF s'exprime. Rudy Sall s'est exprimé la dernière fois sur le budget, pas forcément sur le même ton que Renaud Muselier. Et si je veux m'exprimer au conseil municipal, qui est une autre chose qu'on abordera d'après votre programme plus tard,
à la fin de l'émission,
je peux le faire aussi. Donc nous avons le sentiment d'avoir une très grande liberté à la fois de parole et à la fois d'action. Sauf quand vous êtes dans un cadre comme celui de la municipalité, où au départ vous signez un contrat pour les 6 ans, et les UDF sont des gens qui respectent leur contrat. Mais en dehors de la mairie, je peux dire, et vous le savez très bien, je peux faire ce que je veux.
Est-ce que vous croyez que François Bayrou a une chance, malgré les sondages, d'arriver au second tour ?
Oui, parce que vous savez, les sondages, est-ce que vous vous rappelez par exemple du sondage sur la Constitution européenne ? 70% de oui et à l'arrivée un non. Est-ce que vous vous rappelez des sondages sur les présidentielles où un monsieur Le Pen arrive au second tour ? Que veut dire un sondage aujourd'hui, 4 mois avant que la campagne ait commencé, où il y a eu un matraquage incorrect vis-à-vis de l'intellectuel des Français, ne mettant en position que Sarkozy et Ségolène Royal, c'est-à-dire qu'on ne donne même pas le choix aux Français. Tous les jours, matin, midi et soir, c'est Sarkozy, Ségolène, Ségolène, Sarkozy. Les autres n'ont pas le droit à la parole. Donc, il va y avoir une campagne, fort heureusement officielle, avec le CSA qui va essayer de réguler un peu ceci. Et c'est à ce moment-là que M. Bayrou donnera ses idées. Et je pense que le sondage va remonter. De toute façon, aucune élection présidentielle ne s'est déroulée dans notre pays comme elle avait été prévue avant. Donc, je ne pense pas que la prochaine fasse exception.
Prenons une autre hypothèse. Hein. Bayrou ne passe pas le premier tour. Au second tour, Sarkozy, Ségolène Royal. Quel va être le comportement de Bayrou? Il va appeler à voter Sarkozy.
On vous le dira ce jour-là.
Honnêtement.
Honnêtement, non seulement je ne le sais pas et je ne veux pas le savoir, mais imaginez-vous que si on disait tout de suite ce qui va se passer, d'abord, il va falloir qu'on fasse une réflexion. Qu'on voit d'abord les programmes des uns et des autres. Parce que ils ne sont pas connus. Aujourd'hui, je viens d'entendre que si c'est Ségolène Royal qui est élue, c'est M. Hollande qui va être ministre de l'économie et des finances. Et tout de suite, il dit qu'il va augmenter les impôts. Donc moi, je ne suis pas d'accord du tout. Donc, un détail. Et pour Sarkozy, c'est pareil. Un coup, il veut mettre tous les étrangers dehors. Un coup, il veut les faire revenir. Il fait sa campagne uniquement là-dessus pour l'instant. Moi, je n'ai pas entendu des programmes qui parlent de la France, des Français, dans le cadre de l'Europe et de la mondialisation. Parce que c'est ça qui est intéressant. Il est bien évident qu'il faut faire quelque chose pour les SDF. C'est honteux qu'on ne l'ait pas fait avant. Ou pour tout ce qu'on a à faire. Tout le monde parle des charges, des entreprises qui n'en peuvent plus. Et personne ne fait rien. Quand M. Juppé est arrivé et qu'il a dit, mais avant qu'il arrive, mais moi, la CSG de Rocard, je vais l'annuler. Et puis, dès qu'il est arrivé, il a augmenté. Voilà ce que les Français ne veulent plus. Des hommes et des femmes, puisqu'il faut bien rajouter, je suis très heureux, des femmes en politique qui, avant, disent n'importe quoi et qui, après, font aussi n'importe quoi et bien souvent l'inverse de ce qu'ils ont prévu. Moi, je vous garantis, je peux m'engager que si Bayrou est élu, il fera ce qu'il a dit.
D'accord. J'explicite ma question. L'UDF appelant dans un scrutin national à voter pour un candidat socialiste, ce serait une révolution dans le système politique français. Objectivement, malgré tout, vous êtes quand même plus proche des valeurs en matière économique, par exemple, de la droite.
Oui. Moi, je pense que, très franchement, vous voulez le fond de ma pensée?
Oui. Vous êtes là pour ça, oui.
Eh bien, je vais vous le donner. Je pense que François Bayrou n'appellera pas à voter, que ce soit pour Sarkozy ou pour Ségolène.
Et pourtant,
une des premières raisons. Quand vous dites ensuite, au point de vue économique, bien sûr, je suis très libéral et je pense que ce sont les entreprises et les gens qui travaillent qui apportent la richesse du pays et non pas l'État. Mais regardez le programme économique de M. Mitterrand. Regardez quand M. Mitterrand a été au pouvoir, comment l'économie a prospéré. Alors après, on peut dire, oui, c'est la croissance et la mondialisation. Regardez comme la bourse a prospéré et regardez comme tout se casse la gueule depuis que la droite est au pouvoir. Alors j'ai lu quelque part que quand c'était la droite qui était au pouvoir, elle faisait une politique de gauche et quand c'était la gauche, elle faisait une politique de droite et on n'est pas loin de la réalité non plus. Et là aussi, les Français en ont marre.
Mais comment vous expliquez que dans un sondage qui date de mi-décembre, 53% des militants de l'UDF seraient prêts à voter plutôt pour Ségolène Royal?
Oui.
Est-ce qu'il y a un changement à l'intérieur de l'UDF aussi?
Oui, c'est une bonne question parce qu'elle m'a surpris aussi. À l'intérieur de l'UDF, il y a un changement. C'est-à-dire qu'on a tellement subi depuis 1995, une politique qui n'a pas toujours été en rapport avec ce qui se disait. Je reprends la fracture sociale parce que c'est la plus connue, mais je peux faire tout défiler. La police contre les juges, la police contre les gendarmes, la police contre les pompiers, la police, etc., etc. Et je veux dire qu'il y a une société que je vois se déliter, société française à laquelle tout le monde est attaché, qui fait qu'on est sur ces années où on en a un peu marre et les gens se disent après tout, bon, ben, cette Ségolène Royal, c'est une femme, on a l'impression qu'elle est sortie des arcanes et du carcan du Parti Socialiste, et c'est pour ça que certains seront peut-être tentés.
En gros, vous êtes victime du leitmotiv de Nicolas Bayrou, j'allais dire, oui. De François Bayrou, rassemblé au-delà des frontières partisanes, c'est
alors,
ça ?
Alors, écoutez-moi, mes trois jeunes amis.
Vous savez que le talent n'attend pas le nombre des années. Alors,
exactement, allez-y. C'est pour ça que je suis venu d'ailleurs. Hein. Vous savez que je n'étais pas venu depuis des années vous voir, mais franchement, je suis venu très volontiers parce que je vous connais. Est-ce que vous qui me connaissez mieux, est-ce que moi, je n'ai pas donné l'exemple ? Justement dans ce que vous avez évoqué dans ma carrière. Moi, j'ai travaillé avec Gaston Defferre, j'ai travaillé avec M. Vigouroux, je travaille avec Jean-Claude Gaudin. Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire tout simplement que pendant toutes ces années où je n'adhérais à aucun parti politique, je ne me suis mobilisé que sur les dossiers municipaux, que sur ce qui intéressait les Marseillais, et j'ai travaillé avec bonheur avec les trois, et vous verrez que l'histoire dira, alors maintenant il y a toujours des questions de politique politicienne, d'héritage, etc., que l'histoire dira que ça a été trois grands-mères. Moi j'ai été fier, donc pourquoi au niveau du gouvernement, on ne pourrait pas dire on va travailler ensemble. C'est Jacques Chirac qui a manqué une occasion extraordinaire quand il a été élu en 2001 de ne pas appeler autour de lui que des partisans à lui, mais des gens de droite, des gens de gauche, des gens comme Delors, pourquoi pas comme Strauss-Kahn, et dire voilà, ben on va faire un gouvernement d'union nationale, on va rassembler tous les bons, toutes les bonnes idées, et on ne va pas continuer la droite contre la gauche et la gauche contre la droite. Exemple, l'Allemagne.
Je reviens sur les présidentielles. On va citer, une fois n'est pas coutume, notre confrère la Provence qui a peu l'habitude de nous citer de son côté. Il y a eu un sondage sur les présidentielles qui est paru il y a deux jours. Qui montre que Aix-en-Provence, qui est sûrement, on va dire, la ville le plus de centre-droit ou de centre-gauche, si on veut, enfin en tout cas de centre de la région, est la principale ville, voire même la seule grande ville, prête à voter majoritairement pour Ségolène Royal plutôt que Nicolas Sarkozy. C'est l'inverse partout ailleurs. Est-ce que ça veut dire que, pour un électorat centriste, le discours de Sarkozy, qui est quand même très connoté ultralibéral, très à droite, un discours de rupture fait peur.
Ultra droite.
Oui. Hein. Comment vous définissez ? Que pensez-vous de cet aspect-là
et comment vous
commentez ce sondage ?
Dépendent de la sociologie de la population qui y est. Quand on parle d'Aix-en-Provence, on connaît la sociologie de la population. N'oubliez pas qu'Aix-en-Provence a été dominée pendant des années par le Parti Socialiste et notamment avant Picheral, il y avait un maire socialiste qui est resté pendant des années, donc ça a laissé quand même des traces. Et donc là, il y a une situation un peu plus intellectuelle avec des étudiants qui fait que les discours de Ségolène Royal passent mieux que ceux de M. Sarkozy, qui sont quand même très radicaux. On voit très bien que ce qu'il veut, c'est piquer des voix à Le Pen. Donc c'est un discours, à mon avis, dans lequel il se trompe lui aussi. Et ce n'est pas un bon discours, à mon sens.
Et pourtant, législative, vous allez faire alliance avec ce parti, probablement.
Avec quel parti ?
L'UMP.
Mais pas du tout.
Il faudra bien.
Mais vous n'en savez rien. La dernière fois, on n'a pas fait alliance, on a eu 30 députés. Cette fois-ci, on en aura peut-être plus. Moi, je crois, encore une fois, je vous dis que je pense que Bayrou ne prendra aucune décision après le premier tour. On verra bien, mais...
Mais qu'est-ce qui différencie aussi le projet ? Parce que c'est pas un programme qu'a mis en place l'UDF, c'est un projet de société. Qu'est-ce qui différencie le projet de société de l'UDF de ce que propose l'UMP ou le PS ? On a parfois l'impression en fait que dans ce projet, vous bottez en touche sur un certain nombre de sujets, comme le financement de la santé. Est-ce qu'on le fait avec le public ? Est-ce qu'on le fait avec le privé ? Sur le rôle de l'État qui reste très très régalien, avec dans le cadre d'une 6e République, qu'est-ce qui vous différencie des deux grands partis ?
D'abord, les deux grands partis disent à peu près la même chose, entre nous. Je ne vois pas trop la différence.
Il y a quand même deux ou trois nuances.
Il y a deux ou trois nuances. Heureusement, autrement, on penserait qu'il n'y a qu'un seul parti. La seconde, c'est un état d'esprit. Voilà. Vous avez l'équipe de droite qui veut garder le pouvoir et tout le pouvoir, qui nomme chaque fois qu'il y a un poste important, non pas le meilleur, mais des gens de leur côté. Je ne dis pas qu'ils sont... Il n'y en a pas des bons, il y en a des bons partout. Et de l'autre côté, ce sont les socialistes qui veulent récupérer le pouvoir pour nommer les gens au Conseil d'État, au Conseil constitutionnel, dans les grandes institutions, etc. L'état d'esprit de François Bayrou, c'est de dire, si j'y arrive, je vais gouverner avec tout le pays. Je ne vais pas me couper d'un tel ou d'un tel, parce qu'effectivement, il est catalogué comme un homme de gauche. S'il est bon dans ce secteur, je le nommerai. C'est ce qui, à mon sens, est fondamental.
En même temps, il ne peut pas faire autrement. Gouverner avec
autrement.
D'autres.
Mais il veut gouverner avec d'autres, mais tout le monde, pas que la droite qui gouverne tout, ou que la gauche quand elle y est. Donc ça, c'est l'état d'esprit. Quand vous dites régalien, non, les propositions qu'on donne pour la 6e République ne sont pas, évidemment, il faut qu'il y ait un État et qu'il ait des droits régaliens comme celui de la politique étrangère ou celui
de la justice, de la sécurité.
Mais dans le reste du temps, le droit régalien que s'est octroyé par, non pas par la Constitution, mais par les partis politiques, l'État, c'est de même plus laisser les députés faire des amendements, comme je vous l'ai dit. Donc François Bayrou veut réinsérer des propositions de loi et non plus des projets de loi. Aujourd'hui, 99% des projets qui passent sont des projets de loi inséré par le gouvernement. Il n'y a plus de débat, il n'y a plus d'initiative. Donc, il veut redonner au Parlement une certaine vitalité.
Il y a effectivement ces dispositions et ces propositions.
Mais par exemple, le 49.3.
Excusez-moi, je vais finir ma question. Mais pour finir sur le rôle de l'État, le projet propose quand même de mettre fin à l'État-providence alors qu'on est dans une société qui reste très demandeuse d'une protection sociale, d'un rôle fort de l'État, que ce soit dans les transports, dans la santé, dans l'éducation, dans la protection sociale, dans l'énergie. Et là, il y a quand même, pour reprendre un mot qui n'est pas celui de votre parti, il y a quand même une rupture avec la situation actuelle, avec en tout cas l'esprit, la volonté des Français.
Si vous voulez, non, je ne pense pas que la volonté des Français soit la cistana. Mais c'est justement la surenchère politique droite-gauche qui a fait qu'on est arrivé à la cistana. L'un dit, moi je vais vous donner ceci, à vous donner cela, moi je vais vous donner un peu plus, etc. Non, en France, il faut récupérer une certaine responsabilité. On ne peut pas assister l'ensemble des Français. Et pourtant, vous savez combien je suis sensible à tout ce qui sont les idées de solidarité et de gauche. Mais je crois qu'en faisant ça, on fait du tort à tout le monde. Quand quelqu'un qui ne va pas travailler gagne plus que quelqu'un qui va travailler, ce n'est pas logique. Donc, il faut refonder les bases de la cistana et de la solidarité. La solidarité, elle est pour tout le monde et non pas pour les plus malins.
Mais avec des propositions très concrètes qui sont comme le travail universel ou l'activité universelle, je ne sais plus, mais en tout cas une contrainte de droits sociaux, de financement d'assistanat, de mesures d'assistanat, comme vous le disiez, avec une obligation d'avoir une activité dans le social, dans la sécurité derrière.
Je trouve.
Mais, qui est quelque chose qui est à la limite très américain, où on oblige à travailler contre un certain nombre de droits.
Mais moi, je trouve que c'est normal. Déjà, si on revoyait la NPE et son fonctionnement, et le coût que ça apporte pour le manque d'efficacité qu'il y a, alors moi, effectivement, je suis pour qu'on assiste les gens, mais pas pour qu'ils restent chez eux toute la journée devant la télévision à s'abêtir avec des feuilletons américains en particulier. On les paye, ils n'ont qu'à faire quelques services sociaux, aider les enfants à sortir des écoles. Je trouve qu'il faut en retour quelque chose.
Mais ce sont des vrais emplois. Ça pourrait être vrais emplois.
Oui,
pourquoi
ça,
subvenir à une activité comme ça et dire on va vous donner un certain nombre de...
Parce qu'on n'a pas assez d'argent pour démultiplier tous ces emplois. Or, cet argent, on le donne à des gens qui ne font rien, autant qu'ils fassent quelque chose.
C'est plus le discours de Sarkozy que d'une Madame Royale, vous ne croyez pas ?
C'est mon discours.
On a vu votre discours, Jacques Rocasséra. Un mot peut-être sur les inscriptions en masse qu'il y a eu sur les listes électorales ces derniers temps. Vous pensez que ça va se faire au détriment de la droite ? Et quand je dis la droite, les gens vont généraliser, c'est-à-dire y compris l'UDF ? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est un coup à jouer pour l'UDF, justement ?
Non, je crois que ça va se faire au profit de la démocratie. Et moi, j'en ai marre aussi des gens qui font que hurler et qui ne vont même pas voter. On a dans ce pays un droit de vote que la moitié des gens n'exercent pas. Alors à partir du moment où il n'exerce pas, pendant les 6 ans ou les 5 ans de mandature, ben, à mon avis, ils n'ont pas à parler. Je trouve très heureux qu'il y ait des citoyens qui se soient dit cette fois-ci, j'en ai marre, je vais aller voter et je vais faire peser la balance. Alors pour qui vont voter, je ne le sais pas, mais qu'ils aillent voter, c'est déjà une bonne chose.
Il va y avoir donc des législatives aussi après les présidentielles, donc c'est un rendez-vous important aussi pour le débat. Vous étiez en 2002 candidat dans la 8e circonscription. Vous aviez obtenu un résultat tout à fait honorable, 36,84% pour être précis, face à Christophe Masse. Est-ce que vous allez être à nouveau candidat ?
Alors, je suis allé dans cette circonscription au dernier moment, vous le savez.
Rappelant que vous étiez candidat de la droite, y compris UMP.
Oui, hein. J'étais candidat de la droite. Je suis allé dans cette circonscription parce qu'on a voulu m'offrir une circonscription au dernier moment. Hein, c'est une circonscription que je ne connaissais pas très bien. Je me suis lancé là en quelques jours de campagne et pratiquement sans moyens face à... pas un candidat...
Enfin, sans moyens, vous exagérez un peu. C'était quand même pas la campagne démotivée. Je vous ai suivi dans le 8e.
Mais oui, mais monsieur, mais vous ne m'avez pas suivi jour et nuit, alors.
Non.
Parce que quand j'avais, moi, 10 ou 15 afficheurs, mes concurrents en avaient 200. Vous savez qu'ils passaient en moto et qu'au téléphone, ils disaient « Il y a une affiche là, il y a une affiche là. » Et tout de suite, il y avait 2 camionnettes. Quand vous avez vu les campagnes et les gens qui gardaient les bureaux de vote... On ne pouvait même pas rentrer pour voter tellement qu'il y avait des gens qui surveillaient les gens qui arrivaient avant, etc. Ça a été une campagne disproportionnée. Vous savez très bien que depuis que cette circonscription existe, elle est détenue que par une seule famille. J'ai rien contre elle. Le candidat qui était opposé était un très bon candidat et il a gagné sans qu'on puisse dire quoi que ce soit. Il faut quand même rappeler que j'ai été dans une circonscription où seulement 10 circonscriptions en France, il y avait au deuxième tour un candidat du Front National. Je ne pense pas que même sans le candidat, j'ai pu gagner. Mais comme vous le dites, et je vous en remercie, j'ai fait un très bon score. Parce que celui qui m'avait précédé, ou les gens qui m'avaient précédé de la droite dans cette circonscription, la dernière fois... loin d'avoir fait les 37%, n'avait même pas fait les 10% pour se maintenir au deuxième tour. Donc ça veut dire aussi qu'en plus, il y a peut-être eu une équation personnelle qui fait que depuis 30 ans, je me déploie dans toute cette ville pour essayer d'aider tout le monde sans parti pris.
Vous avez envie de transformer l'essai, là, ça se sent.
Non.
Alors pourquoi ?
Ben parce que les envies passent, les années passent. J'ai plutôt envie de mettre une équipe de jeunes. Vous verrez d'ailleurs que dans l'équipe, dans les 16 candidats qui iront dans les 16 circonscriptions des Bouches-du-Rhône, puisqu'il y en aura un dans chaque circonscription.
Y compris contre l'UMP ?
16 circonscriptions, 16 candidats de l'UDF.
C'est sûr.
Pas contre l'UMP, pour l'UDF. C'est sûr.
Mais là, c'est quoi ? C'est parce que la loi française oblige les partis à se présenter aux législatives
non.
pour avoir des financements
oui,
publics ?
Oui, ça c'est... Non, mais c'est pas le fondement, c'est pas l'argent. C'est le fait de dire l'UDF n'est plus le parti d'il y a 5-6 ans. L'UDF est capable de mettre un candidat par circonscription. Là, vous aurez 16 candidats dans les 16 circonscriptions. Vous aurez la parité. Et vous aurez des jeunes hommes et des jeunes femmes.
Nous sommes à l'écoute de Radio Grenouille, c'est le Ravi, c'est le mensuel régional et satirique.
La Grande Tchatche, le Ravi, Radio Grenouille.
Jacques Ocacera, Michel Guéroux ont parlé des législatives.
Oui, quelle ambition pour l'UDF ? On va élargir en région PACA, vous avez un député, Rudy Sall, dans les Alpes-Maritimes. Il y a d'autres possibilités là ?
Oui, il y en a d'autres. Il y en a dans le Var, il y en a un peu partout. Si on fait un retour en arrière, il y a simplement, c'est en 98 que l'UDF a explosé. Je me permets de vous le rappeler. Pourquoi ? Parce que certaines personnes qui composaient l'UDF se sont associées après les élections régionales au Front National, ce qui pour nous a été rédhibitoire. L'UDF a explosé et tout le monde est parti. Ensuite, en 2001 ou 2002, lors des présidentielles...
Vous faites référence à Jean-Claude Gaudin, pour être clair pour les auditeurs.
Non, mais je vais vous le dire.
Jean-Claude Gaudin, président de la région, qui a gouverné avec le Front National.
Non, monsieur, pas du tout. Vous parlez de cette époque qui est très, très, très lointaine. En 90... Oui. Non, mais ne me faites pas dire ce que je ne veux pas dire. Je parle de 1998. Monsieur Gaudin n'était plus président. Or, sur le plan national, il y a beaucoup d'élus de droite qui se sont alliés pour conquérir la présidence de leurs conseils généraux en France, et justement, ça ne s'est pas passé en Provence-Alpes-Côte d'Azur, parce que je m'y suis opposé aussi, parce qu'il y avait eu une tentative de le faire avec un Niçois. Et à ce moment-là, nous n'avons pas accepté. Donc, 98, il y a eu l'explosion. Ensuite, le président de la République a voulu former ce grand parti qui devait rassembler droite-gauche et qui simplement n'a fait que piquer des élus à l'UDF. Et l'UDF s'est vidé. Parce que les gens sont allés vers le pouvoir, vers les mandats, vers les Marocains, comme on dit, ou peut-être c'était leurs idées, j'en sais rien, mais jusqu'à présent, ils étaient plutôt dans une autre philosophie. Donc 98, nous sommes repartis de rien. Alors si vous voulez reparler de Jean-Claude Gaudin et de l'UDF, oui, lui, en 2001, il est parti avec toute son équipe de l'UDF à l'UMP, et on nous a laissé une coquille vide, à l'UDF, où il n'y avait plus aucun député, où il n'y avait plus d'élus pratiquement. Et nous avons rebâti petit à petit cette UDF. Aujourd'hui, vous avez 150 élus municipaux, vous avez quand même un sénateur dans les Bouches-du-Rhône, vous avez un conseiller général. Mais vous savez, pour reprendre le dessus comme ça, face encore aux deux partis majoritaires, c'est difficile. Et la façon, justement, de récupérer du terrain, c'est d'avoir des candidats partout et à toutes les élections.
Cela dit, un député dans les Bouches-du-Rhône, ça paraît quand même assez difficile.
C'est difficile. Bien sûr que c'est difficile, puisque vous avez 5 circonscriptions qui sont tenues par la droite et très fortement, et vous avez 3 circonscriptions qui sont ingagnables par la droite. Alors, quand on me dit, vous allez aux législatives, oui, mais dans laquelle ? Est-ce qu'on m'offre une circonscription ? Puisque on veut qu'on s'allie au deuxième tour avec l'UMP, est-ce qu'on m'offre une circonscription de droite ? Ou est-ce qu'il faut que j'aille me faire casser la gueule encore dans une circonscription de gauche ?
Exemple, la 16e, par exemple, qui pose un problème, puisque vous avez un de vos poulains mouillés qui affronte directement le député en place Chassin, UMP. Comment ça va se passer ?
Alors là, ça va bien se passer.
C'est-à-dire ?
Parce que quand on méprise pendant des années l'UDF avec des actions, des lettres et des paroles, on ne doit pas s'attendre à ce que l'UDF, au bout des 6 ans du mandat, juste au moment de l'élection, on vienne faire ami-ami. Alors, c'est vrai que dans la plupart des circonscriptions, tout le monde a été correct, y compris les députés de gauche. Je parle de M. Dutoit, mais je peux parler d'autres députés. Celui-ci, il n'a pas été correct avec nous. Donc là, il n'y aura pas de cadeau.
Vous soutiendrez éventuellement Michel Vauzelle qui se présente ?
Je ne soutiendrai pas Michel Vauzelle. Je soutiendrai le candidat de l'UDF, qui est le docteur Jean-Christophe Moulet, conseiller municipal d'Arles, ayant créé depuis quelques mois et même quelques années une très belle section d'UDF qui touche pratiquement tous les villages de cette circonscription. Moi, je ne suis jamais contre les gens, je suis pour.
Est-ce que vous ne croyez pas que les électeurs vont être quand même un petit peu déçus, étonnés, parce qu'effectivement, Béroud tient un discours de fermeté, d'indépendance depuis pas mal de temps. Et puis là, objectivement, honnêtement, aux législatives, au second tour, l'UDF va quand même s'aligner c'est, à 90% c'est, derrière les candidats UMP.
C'est pour ça que je vous dis, je ne veux pas, moi, que les candidats soient, que les candidats, que les Français soient déçus, parce que Beyrouth tient un discours de fermeté, de courage, de ténacité, de vision à moyen et long terme. Effectivement, ça serait une déception. Sauf s'il y avait des accords qui laissent beaucoup plus d'espace à l'UDF dans tous les domaines, c'est-à-dire dans le programme, c'est-à-dire dans la philosophie qu'on a du nouvel État de la VIe République, c'est-à-dire sur le terrain un certain nombre de députés. Alors, bien sûr, à ce moment-là, ce n'est plus une question ni d'argent ni de pouvoir, mais c'est une question de programme et d'avenir pour la France. Personne ne parle de la France dans l'Europe et dans la mondialisation. Nous, nous en parlons. À ce moment-là, s'il y a un certain nombre d'accords très importants qui se traduisent dans les faits, je ne vois pas pourquoi on ne s'allierait pas.
C'est une fermeté à géométrie variable, en quelque sorte ?
Pas du tout.
Pourquoi ? Ou alors elle s'édulcore au niveau des régions
et... Par exemple, une des choses non négociables, c'est qu'il y ait une petite proportionnelle dans les prochaines législatives. Ça veut dire qu'il faut que tous les Français soient représentés. Il y a une autre fermeté, c'est que le mandat du président soit un vrai mandat présidentiel. C'est qu'on abandonne le 49-3. Il y a beaucoup de choses comme ça, donc ce n'est pas à géométrie variable. Il y a tout un socle non négociable, une base non négociable. Après, bien sûr, on ne peut pas être des ayatollahs, on comprend que tout le monde puisse discuter. À ce moment-là, effectivement...
Donc c'est la fin des négociations politiciennes juste de pouvoir et...
Voilà. Alors ça, vous me faites plaisir, si vous pensez... Oui.
Non,
si
je vous pose la question. Est-ce que je le pense ou pas, c'est un autre problème. Là, je vous pose la question.
Vous me posez la question. En tous les cas, ça a toujours été mon état d'esprit. Hein. Et je crois que c'est l'état d'esprit de François Bayrou et des Français. Les négociations politiciennes, maintenant, on les voit comme un nez rouge au milieu de la figure. C'est-à-dire que les Français, vous ne pouvez plus les berner. Il y a des négociations qui doivent être sur le fond et sur l'avenir de la France à moyen et à long terme, encore une fois dans une Europe forte et la mondialisation. Et puis il y a le petit magouillage, je te donne une circonscription, tu me laisses celle-là, tu me présentes. Ça, les Français en ont marre.
Pour avoir une représentativité, il faut avoir aussi une présence politique.
Oui. Donc... Mais à partir d'un accord de fond, on peut avoir une présence politique mieux répartie. À quoi servent ce nombre exorbitant de députés d'un seul parti qui votent comme un seul homme ?
Alors, vous avez évoqué les négociations dites politiciennes. Jacques Rocasséra, on a vu que vous aviez traversé quand même différentes périodes avec Defferre, Vigouroux, y compris Jean-Claude Gaudin, une véritable peau de dauphin, diront certains. Comment vous allez faire quand, au municipal, il faudra présenter un candidat contre Jean-Claude Gaudin ?
Eh bien, vous me réinviterez, je vous répondrai à ce moment-là.
On est quand même
loin des municipales. Ben, ça dépendra des présidentielles.
On est loin des municipales. Jean-Claude Gaudin s'est déclaré déjà. Hein,
oui, mais c'est logique. Non, mais on est loin des municipales. Ça dépendra notamment des questions que vous venez de me poser. Imaginons qu'il y ait, à la suite des présidentielles, qu'il y ait l'élection majeure dans un pays comme la France, il y ait des accords. Alors moi, je ne suis pas... au niveau de tous ces accords. S'il y a des accords, il pourra y avoir des accords pour les municipales. S'il n'y a pas d'accord, il n'y aura pas d'accord pour les municipales non
plus. Et s'il
n'y
a pas d'accord, alors Jacques Rocasséra se présenterait contre Jean-Claude Gaudin ?
Jacques Rocasséra, il vous le dira le jour où il faut où on sera en situation.
Jacques Rocasséra, la question semble posée, puisqu'apparemment à La Ciotat, certains anciens UDF ont claqué la porte de manière assez véhémente en disant que justement cette position était un petit peu schizophrénique.
Oui, c'était des excuses, vous voulez dire. Hein.
C'est-à-dire, expliquez-vous.
C'est tellement petit que ça ne m'intéresse pas. Qu'un élu de je ne sais quel village claque la porte parce qu'il est plus en phase avec son parti, ça n'intéresse personne. C'est ça la politique politicienne. Le jour où il faudra prendre des décisions au municipal, vous me réinviterez, je vous le dirai. J'ai jamais eu la langue de bois, j'ai eu un certain courage toute ma vie. Donc je ne vois pas pourquoi je vais m'en départir. Aujourd'hui, ce sont les présidentielles et les législatives qui vont tout conditionner. Après même, bien avant les municipales, après les législatives, réinvitez-moi et en fonction de la façon dont ça s'est passé, je vous dirai ce qui se passera.
Une question quand même, ça doit être un petit peu une position un peu schizophrénique avec Jean-Claude Gaudin. C'est quand même le numéro 2 de l'UMP sur lequel François Bayrou n'arrête pas de taper de façon très très ferme. Alors il est en campagne et vous, vous êtes son adjoint et vous ne tarissez pas d'éloges quand même sur la politique de Jean-Claude Gaudin. Alors comment on peut faire à la fois la campagne de Bayrou et puis être l'adjoint fidèle et
d'équilibre
de Jean-Claude Gaudin?
Parce que c'est ça. La schizophrénie, c'est pas ça. On emploie des termes un peu comme ça.
C'est une image.
Et c'est pas non plus de l'équilibrisme. Moi, je suis. Je comprends pas comment on peut mélanger les deux. Je suis dans une équipe municipale qui travaille pour les Marseillais. Quand on me dit, on va essayer de réduire le chômage, on va faire des zones franches, on va faire des tunnels, on va faire le palais de la glisse et de la glace, on va faire ceci, on va améliorer les transports en commun, on va faire le tram, etc. Je suis d'accord avec Jean-Claude Gaudin et je n'ai pas peur de vous dire que je trouve, même M. Raffi, vous voyez, si éventuellement j'étais candidat contre Jean-Claude Gaudin aux prochaines élections, je trouve que Jean-Claude Gaudin aura été un très bon maire, qu'il a fait beaucoup de choses pour sa ville, il a relancé la construction, on a relancé l'image ensemble, etc. Donc ça ne me gêne pas du tout. Sur le plan national, les positions de l'UMP, parce que Jean-Claude Gaudin est assez prudent, il prend pas, c'est Sarkozy qui prend ses positions. Je ne suis pas d'accord avec les positions de Jean-Claude Gaudin. Tous les lundis matins, je vois Renaud Muselier et Jean-Claude Gaudin. Tous les lundis matins, on parle surtout des problèmes municipaux.
Quelle est votre latitude, là, mais quand vous êtes dans le bureau avec Claude Bertrand, tout ça?
J'ai toute ma latitude. Je vous donne ma parole d'honneur, et vous pourrez le faire confirmer par Jean-Claude Gaudin ou Muselier ou Claude Bertrand, que je dis ce que je pense avec beaucoup de respect, de réflexion et de considération, comme on peut me dire. Je dis toujours dans mon parti, vous pouvez me dire tout ce que vous voulez, dites-le moi gentiment. Je ne vois pas pourquoi. Je dirais pas, par exemple, quand Nicolas Sarkozy est venu et que ça embouteillait toute la ville, je vois pas pourquoi le lendemain matin, je dirais pas que, à mon avis, les Marseillais n'ont pas apprécié et que ça serait bien de pas faire la même chose la prochaine fois.
Je reviens un peu en
arrière. Un exemple un peu embêtant. Mais quand on parle de la ville, par exemple, lundi matin, on a eu une très vive discussion entre nous sur le rabattement des bus à l'arrivée du tramway. J'ai dit ce que je pensais. Et sur le plan national, je dis ce que je pense. Et Jean-Claude Gaudin est éminemment non seulement intelligent et politique pour savoir que je dois pouvoir discuter avec lui et je dois pouvoir lui dire ce que je pense pour ne pas, à la sortie du bureau, dire l'inverse. Donc, il n'y a aucun problème. Et quand j'en parle à François Bayrou, il me dit « Mais l'UDF a pris un engagement avec Gaudin ». Soyez des gens courageux, raisonnables et responsables et allez jusqu'au bout de vos engagements. J'irai jusqu'au bout de mes engagements. Après, il y aura d'autres engagements. Mais aujourd'hui, je ne les connais pas.
Je reviens un peu en arrière dans le temps. Il y a eu ce conflit à la RTM et vous êtes adjoint à la Régie des Transports. Mmh. On a un peu eu l'impression à ce moment-là que vous étiez peut-être plus royaliste que le roi. Vous avez pris des positions très fermes pendant ce conflit qui était effectivement long et dur. Appel à la réquisition, oui. Discours à l'encontre du syndicat CGT très très ferme.
Je réitère parce que dans la vie, quand on est un homme politique, il ne suffit pas de briller sous les ordres de la République. Quand il faut descendre sur le terrain et avoir un certain courage, eh bien il faut l'avoir. N'oubliez pas, vous n'avez pas voulu que je passe ma musique corse parce qu'on n'a pas le temps, mais n'oubliez pas que je suis un Corse des montagnes, c'est peut-être pas une gloire, mais pour moi c'est une référence. Donc quand il a fallu se battre, c'est vrai que j'étais un peu seul 46 jours. C'est vrai que même quand j'allais remplacer Jean-Claude Gaudin aux 10 ans de Barcelone, il fallait que je me lève des fois à 6 heures pour répondre à Canal+, etc. Les gens ne savaient pas que j'étais à Barcelone. J'étais sur le terrain, j'ai rencontré les gens, des fois ils étaient 200-300. J'ai dit ce que je pouvais, mais Jean-Claude Gaudin m'a soutenu dans cette démarche sans arrêt. On a failli, au cours de ces 46 jours, flancher plusieurs fois. J'ai refusé de flancher, y compris face au médiateur qui n'y comprenait rien, qui est venu faire des propositions qui étaient complètement inadaptées, qui avait qu'une envie, c'est de rentrer chez lui parce qu'il venait de Chine. Et j'ai eu gain de cause plusieurs fois dans le bureau du maire face à certains qui voulaient peut-être céder parce que j'ai eu le soutien total de Jean-Claude Gaudin. Et on a vu que cette grève avait marqué l'ensemble de la France.
Mais non, c'était une pas position, Marseille. C'était la guerre froide, c'était une position très dure.
Enfin, c'était la guerre chaude, pas froide.
On était quand même très loin du dialogue social promu par l'UDF au plan national. On était dans quelque chose de très dur, droite, gauche, rouge.
Ça n'avait rien à voir avec le dialogue social. La grève ne demandait pas qu'on améliore le statut social, les emplois, etc., parce qu'ils sont corrects à la RTM. Et j'y ai participé avec Jean-Claude Gaudin à rattraper le retard qu'il y avait, notamment sur ce qui est comparatif, c'est-à-dire le point 100, en disant... Donc j'ai essayé avec Jean-Claude Gaudin de faire tout ce que je pouvais, mais là, c'était un dialogue politique. C'était un syndicat qui voulait s'imposer face à la démocratie, c'est-à-dire face au vote des élus, à la communauté urbaine qui avait décidé
ainsi. Qui est quand même une démocratie bancale. Il faut rappeler que les conseillers communautaires ne sont pas élus, ils sont désignés.
Mais
c'est une réalité.
Mais c'est l'État. Ça, je ne suis pas responsable de la démocratie bancale. Alors peut-être qu'un jour, il faudra les désigner nominativement, mais pour aujourd'hui, c'est la loi qui impose que ça soit fait comme ça, et je ne vois pas pourquoi un syndicat s'arrogerait le droit d'aller contre des décisions prises.
Mais le droit de grève est constitutionnel.
Oui, le droit de grève est constitutionnel, mais je me permets de vous rappeler que pour la première fois en France, cette grève a été déclarée illégale par tous les tribunaux, en première instance et en appel. Donc, droit de grève constitutionnelle, mais il ne faut pas en exagérer, il ne faut pas déborder non plus.
Il y avait quand même un soutien des Marseillais aussi sur cette grève, sur la manière de... Parce que c'était sur le fond, ce que vous disiez, que c'était une grève politique, sur la manière de gérer la régie.
Il y avait un soutien des Marseillais pour qui ?
Pour les grévistes, Non.
Alors, nous avons fait des sondages et nous avons vu ce qui paraît étonnant, parce que les Français, ils sont un peu étonnants aussi, que dans toutes les grèves, la plupart du temps, à 60-70%, les Français, même s'ils sont pénalisés, sont pour les grèves. C'est la seule grève où les Marseillais ont compris qu'il y avait un abus de pouvoir, que c'était exagéré, qu'ils étaient pris en otage, leurs enfants, leurs parents, eux, et qu'ils payaient un transport en commun qui n'était plus devenu un transport public. Donc là aussi, il y avait une dissonance extraordinaire. Et le sondage que nous avons fait nous a donné raison. C'est un sondage qui est resté discret, mais on a compris que les Marseillais nous soutenaient. Et d'ailleurs, la seule chose aussi que je puisse vous dire, c'est que si la population ne nous avait pas soutenus, et en particulier M. Gaudin et moi-même, nous n'aurions pas pu tenir. C'est que la population nous a soutenus, les commerçants nous ont soutenus, les institutions nous ont soutenus. C'est tout simplement pour ça qu'on a pu tenir 46 jours.
Alors ce tramway-là qui va bientôt rouler, enfin bientôt en juin, si le calendrier est respecté, il va coûter quand même très cher. La ville est endettée. Il y a eu un rapport de la Cour des comptes qui a pointé un certain nombre d'aspects concernant les finances. Est-ce que ça valait la peine de mettre tant d'argent dans cet équipement qui, visiblement, a pour objectif autant la requalification de l'hypercentre que le transport, puisqu'il doublonne en partie le métro?
Non. D'abord, ce n'est pas vrai. Et deuxièmement, c'était indispensable. Mais là aussi, il doublonne que sur quelques centaines de mètres, mais il doublonne dans tous les pays. À un moment donné, si vous voulez que ça soit coordonné, qu'il y ait un réseau qui se développe, il faut bien qu'il se croise et qu'il doublonne. C'était indispensable parce que la ville de Marseille est une ville dans une situation géographique particulière, avec des collines d'un côté et la mer de l'autre, avec un goulet. Si ça ne circule pas, la ville s'asphyxie, l'emploi diminue, les sociétés ne viennent pas s'installer. Donc il fallait absolument renouveler les transports en commun. Quoi de mieux que le tramway, puisque avec 1 km de métro, vous faites 4 km de tramway. Donc on a pris le taureau par les cornes et on s'est engagé dans une politique de renouvellement des transports, avec aussi une prolongation du métro et avec une restructuration totale des lignes de surface, où il y aura 10 lignes structurantes, etc. Enfin, je ne suis pas là pour développer tout ça, mais je peux le faire facilement. Et quand la Cour régionale des comptes, la Chambre régionale des comptes nous dit qu'on est endetté, c'est vrai, mais les endettements, il y en a des bons et des mauvais. Quand c'est un endettement qui est un endettement de fonctionnement, il n'est pas bon. Quand c'est un endettement qui pose les bases de l'avenir pour notre ville, c'est un bon endettement. On va réduire. Ayant écouté la Chambre régionale des comptes, le maire a décidé aussi de réduire dans les années qui viennent l'endettement. Mais je veux dire que ce n'est pas parce qu'il y a de l'endettement qu'on ne doit pas se battre, notamment dans les transports en commun, parce qu'autrement, dans 10 ans, on coulerait la ville et on nous le reprocherait.
Est-ce que ça veut dire qu'une fois le métro inauguré, une fois les municipales passées, Marseille va être obligée de tourner au ralenti parce qu'il n'y aura plus d'argent dans les caisses,
quoi. Non, il y a toujours de l'argent dans les caisses. Et vous savez que s'il n'y en avait pas, on n'aurait pas des prêts de toutes les banques, et notamment de la BEI, qui finance le métro. Vous croyez que ces gens-là sont des imbéciles? C'est une banque européenne d'investissement. Et au vu du dossier, elle a donné son accord immédiatement et signé les chèques qu'il fallait pour cet équipement qui est indispensable, essentiel pour la vie économique, sociale et environnementale de la ville. Donc on ne va pas tourner, on va simplement serrer les investissements et peut-être les hiérarchiser et les répartir un peu plus dans le temps. Mais on ne diminuera pas l'investissement dans cette ville parce que ça serait faire mourir à moyen terme cette ville.
Et pour en revenir au transport, il n'y avait pas non plus... vous n'auriez pas pu imaginer un redéploiement justement de ces transports à travers, pour désenclaver un certain nombre de quartiers qui sont isolés, hein, même en transport en commun. Plutôt que de recentrer tout sur le centre-ville,
Oui, c'est deux stratégies qui se sont affrontées et c'est à la suite d'enquêtes très poussées de spécialistes qu'on est reparti du centre-ville, et ça me paraît être essentiel parce que c'est dans le cœur de la ville que tout le monde travaille. Et ensuite, à partir du centre-ville, vous allez avoir les extensions. Sur Saint-Antoine, on va remonter plus haut que les Cailloles, on va aller à Mazargues, etc. On a aussi... était dans ce sens-là, parce que de la Timone à la Fourragère, c'est aussi vers les quartiers. C'est-à-dire que là, on va rejoindre la L2 où il y aura un grand parking et récupérer. L'autre métro ira jusqu'à Florian, et pareil. Donc, on part du centre-ville parce que ça paraît cohérent et parce que moi, je le vois dans la comptabilité des personnes transportées, elles viennent de tous les quartiers pour aller au centre-ville. On ne peut pas dire qu'on va commencer par l'extérieur. Il faut commencer par le début. Donc, on a commencé par le début.
Il faut bien les amener dans le centre-ville.
Hein. Ben voilà, on va les amener. Et c'est la proposition qu'on va faire dans les 3 mois qui viennent de rapatriement des bus, des quartiers sur le tramway. Ça va faire l'objet d'un débat dans lequel, malheureusement, je vais être encore en première ligne pendant plusieurs mois.
Il y a eu un débat déjà. Il y a eu une première ébauche, apparemment, de redistribution un petit peu des bus qui a été très contestée par l'opposition.
Oui, mais ce qui est extraordinaire, c'est que l'opposition a contesté cette redistribution avant qu'elle ne paraisse. Donc c'est encore de la politique politicienne pour dire quelque chose. On a terminé les études hier après-midi. Alors c'est peut-être un peu long, mais je vois pas comment l'opposition pourrait les connaître avant nous. Donc là aussi, c'est une question de politique générale et aussi d'investissement important sur les années à venir. Marseille est une des seules villes qui relie tous ces quartiers, qui fait en sorte qu'il n'y a pas de ghetto dans notre ville. Et jeudi...
À partir de 21h, Jacques Rocassera.
Oui, mais à 21h et pourquoi pas jusqu'à minuit? Dans la journée, journée, bien sûr, c'est la réalité jusqu'à 21h, de 5h du matin à 21h. Vous en voulez toujours plus, mais vous ne payez pas. Deuxième ville de France, mais vous ne payez pas. Et je prétends que s'il n'y a pas eu de problème dans les banlieues aussi, c'est grâce au lien social que procurent les transports en commun. Alors évidemment, moi j'aimerais que les bus circulent partout, le jour et la nuit, mais qui paye?
Alors, il nous reste très peu de temps, mais on voulait aborder deux questions qui rejoignent vos délégations. Alors, vous êtes chargé des relations avec les pays méditerranéens. Est-ce que les politiques, en particulier vis-à-vis de l'immigration, assez répressive, la politique au compte-gouttes des visas, est-ce que tout ça est favorable à ce développement de ces relations euro-méditerranéennes auxquelles vous êtes attaché?
Je ne suis pas délégué aux relations des pays méditerranéens. C'est une délégation que j'ai voulu créer parce qu'elle me paraissait nécessaire. Mais depuis, le maire a a élargi cette délégation aux relations internationales.
D'accord.
Et vous le savez, je m'y suis lancé comme personne avant, ou même dans les autres villes. Pourquoi ? Parce que j'ai pensé que l'image de Marseille, qui était véhiculée dans tous ces pays, pouvait être bénéfique en retour pour notre ville. Par exemple, jamais dans ce pays... Alors, on a commencé par les pays méditerranéens parce que l'histoire l'imposait. Quand l'Europe s'est créée, on s'est tout de suite retourné vers l'Europe, mais les pays méditerranéens, c'était important. Puis on s'est retourné vers l'Europe puisqu'on a pris des accords, vous le savez, avec Édimbourg, avec Glasgow, qui est une ville écossaise qui est similaire à la nôtre, avec Hambourg, etc. Puis avec la Chine parce que c'est important. Et là, récemment, avec Alger parce que c'est important aussi. Et jamais à Shanghai, il y a eu une délégation de 350 personnes ou à Alger de 300 personnes représentant les 15 plus grandes entreprises, 85 entreprises de la région, mais aussi, et ce qui nous différencie des Allemands, des Anglais, des Américains, et c'est la fierté des Français, avec un pôle culture, avec un pôle social, avec un pôle sportif, et c'est ce qui plaît à tout le monde. Et notre ami Rafi, qui est là et qui a suivi ça de près, peut vous dire l'intérêt et les retours que nous avons pu avoir dans ces délégations. Je trouve qu'il y a un retour très important sur l'investissement, notamment dans les échanges qui soient culturels, sociaux, mais aussi sur l'économie. Et il faut que dans ces délégations et ces voyages, qui sont non pas à la taille de Marseille, mais presque à la taille nationale, y est ce qu'on appelle du gagnant-gagnant. Alors, on apporte un savoir-faire à ces pays.
On arrive presque au terme de l'émission, Jacques Rocasserra. On a compris votre engouement pour la Méditerranée. En 2001, quand Jean-Claude Gaudin a été élu, c'était sur un slogan qui était relativement simple et très alléchant. C'était Marseille, capitale euro-méditerranéenne.
Oui.
Depuis quelque temps, on semble contourner ce slogan pour faire tout simplement Marseille, capitale européenne. Alors, est-ce qu'on tourne le dos encore une fois à la Méditerranée ?
Absolument pas, et le maire l'a prouvé, puisque quand même, il a payé de sa personne, il est allé dans tous les pays. En juin, regardez, je prends que les derniers 6 mois, en juin, on est allé en Tunisie, on est allé 2 fois en Algérie, on est allé au Maroc, je suis allé en Syrie. Non, ça veut dire qu'il faut un certain équilibre. Indispensable, et ça, alors vous, là, je pourrais vous en parler.
Je rappelle quand même que ces voyages, vous les avez qualifiés vous-même dans Le Point, dans une interview en 2005, de semi-folkloriques. Hein.
Ah, pas du tout.
Ah, si ?
Non. Les voyages avant étaient semi-folkloriques, et je peux maintenant, avec du recul, dire folklorique. Mais quand vous amenez 300 personnes en Algérie avec toutes les sociétés, avec les pôles de compétitivité, avec le CEA, avec tous les bâtisseurs, tous les constructeurs, c'est pas folklorique, ça.
Rapidement, Jacques Rocasserra, on connaît la singularité de Marseille, ville d'immigration, d'émigration également, le problème des pieds noirs est encore constant. Un jour, Marseille sera jumelée avec Alger ?
Oui.
Quand ?
Sûrement.
Parce que c'est assez paradoxal quand même, c'est l'une des rares capitales à vol d'oiseau, et pourtant Marseille est jumelée avec Shanghai.
Je vais vous expliquer.
Et pas avec Alger.
D'abord parce que on a fait 12 jumelages dans toute l'histoire de la ville de Marseille qui sont arrêtés il y a 20 ans. Depuis, nous avons repris les jumelages, mais sous une autre forme, avec des accords de coopération, et nous nous sommes jumelés avec Marrakech et Glasgow. Mais nous ne voulons pas nous jumeler, parce que c'est un serment qui est définitif, avant d'avoir travaillé avec les gens.
Le poids de l'histoire, pour aller très très vite, sans langue de bois, de l'histoire est encore là sur Marseille. Ce jumelage avec Alger.
Non, je ne crois pas. La meilleure des preuves, c'est que si le poids de l'histoire y était, le maire n'aurait pas conduit une délégation de 300 personnes et n'y serait pas allé en 99, car c'est le premier homme politique d'importance qui est allé. Je pense qu'il faut mettre en place des accords de coopération, et on l'a fait entre la ville d'Alger et Marseille. Des accords de coopération qui doivent prouver qu'ils fonctionnent et qu'il y a un intérêt pendant 1-2 ans, et au bout de 2 ans, aboutir à un jumelage. C'est en quelque sorte des fiançailles et ensuite un
mariage. Michel Guéraud.
Pour conclure, une question en forme de boutade. Vous avez été avec Defferre, Vigouroux, Gaudin. Si un jour M. Guérini succède à M. Gaudin à la mairie de Marseille, vous serez à ses côtés ?
Non, pour plusieurs raisons. Parce que depuis, je suis rentré dans un parti politique. J'ai pu faire cela, je vous l'ai dit tout à l'heure, parce que j'étais de la société civile et que je m'interdisais de m'exprimer sur le plan national et au GAES, pour rappeler que c'était dans le cadre du GAES, Groupement d'Action Économique et Sociale, où il y avait 10 000 personnes, chacun votait ou faisait ce qu'il voulait, on s'intéressait. Depuis, je suis rentré dans un parti politique, je suis dans un camp et je resterai fidèle à mon camp.
Jacques Rocassera, un de vos amours, et je ne vais pas parler des femmes, c'est un poste cette
Mais
fois-ci.
Vous pouvez. Hein.
C'est les sénatoriales, vous avez mis une croix dessus ou vous laissez les législatives pour les sénatoriales?
Vous savez, l'autre jour,
très vite.
Très vite, je suis un homme, un terrien, un homme de bon sens.
Et donc
Et donc, je verrai, mais je dois dire que ce n'est pas du tout un de mes objectifs. Je suis très bien comme ça. Ça m'évite d'aller à Paris toutes les semaines et de m'occuper un peu plus de ma famille et en particulier de ma petite fille qui vient de naître le 26 décembre. Et pour moi, c'est ça mon ambition, ma famille, mes amis et ma santé.
Un jeune grand-père. Voilà, donc c'était Jacques Rocassera pour La Grande Tchatche, l'émission du mensuel Le Ravi, dans tous les kiosques, également sur internet www.leravi.org avec Radio Grenouille. Nous nous retrouverons donc le 10 février prochain à partir de 12h. Et encore une fois, la politique sera à l'honneur, la politique sera à demeure sur les 3-8.